Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme.
Première partie de cette émission, nous avons parlé de la première révolution iranienne moderne, donc la révolution constitutionnaliste de 1905-1906 et puis qui dure au cours des années suivantes. On a également parlé de la société iranienne sous les Qajars, la dynastie donc, qui est finalement renversée donc en 1925 par Reza Shah, dont nous venons de parler à la fin de la première partie, puisqu'il va prendre le pouvoir en 1921 avec l'aide et sous impulsion des Britanniques, donc qui veulent un homme fort pour stabiliser le pays et en faire un protectorat de fait, pouvoir exploiter notamment ses richesses pétrolières tranquillement. Et voilà, pour ça, ils vont utiliser le seul noyau, entre guillemets, d'État qui existe en Iran, c'est-à-dire pas la bureaucratie puisqu'il n'y a pas de bureaucratie, mais voilà la brigade cosaque qui formait sous les Qajars la garde prétorienne du régime, hein, c'était un peu la seule force armée vraiment qui n'était pas sous le contrôle autre que celui du Shah. Et donc Reza Shah, à la tête de cette brigade, va faire un coup d'État en 1921 qui va lui permettre de s'arroger le pouvoir. Et au début, les Britanniques, évidemment, sont très contents de l'arrivée au pouvoir de Reza Shah, mais en réalité, Reza Shah, un petit peu comme Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir Napoléon III, voilà, comme une personnalité qui va pouvoir être manipulée dans le sens voilà, des intérêts. Et en réalité, il va finir par échapper, sans fondamentalement, évidemment, remettre en cause les intérêts impérialistes britanniques, mais disons que Reza Shah va initier des transformations qui ne sont pas forcément favorables aux Britanniques, c'est-à-dire la constitution d'un État centralisé fort, avec une bureaucratie, une armée, et aussi un développement capitaliste industriel conséquent, qui va transformer l'Iran d'une espèce de semi-colonie britannique, avec une société encore largement féodale, en une société dont les rapports sociaux vont être complètement bouleversés au cours des années 1920-1930 par cette espèce de dictature modernisatrice de Reza Shah, qui va faire l'objet donc de notre deuxième partie. Et pour en parler, donc nous sommes toujours avec Habib, donc qui est le préfacier de la politique en Iran de Théocom et qui est paru aux éditions Sénone Vero en 2010. Donc du coup voilà Habib, tu nous as parlé un petit peu de tout ce qui s'était passé en Iran au 19e siècle et jusqu'à 1921. Voilà, donc quelles sont les transformations politiques, sociales et économiques fondamentales que va mettre en place Reza Shah, principalement pour affermir son pouvoir, mais en cherchant à affermir son pouvoir, il va finalement bouleverser la société iranienne avec des répercussions jusqu'à aujourd'hui.
Absolument. Je dirais que, en fait, le bouleversement de la société iranienne peut être vu comme l'œuvre de la dynastie Pahlavi. Pas uniquement de Reza Shah, puisque Reza Shah a vraiment permis les fondations. Ce qui est très important, c'est de comprendre encore, de voir la situation iranienne à cette période encore en rapport avec les nécessités du développement du capitalisme. Ce qui est très intéressant, et d'ailleurs ce qui m'a vraiment intéressé dans la politique de l'Iran de Theori Kosp, c'est qu'il essaie, pour la première fois d'ailleurs que je voyais, de voir la situation globale, c'est-à-dire pas uniquement le développement de la société iranienne, mais de voir ce développement en regard de ce qui se passe et les nécessités du capitalisme à ce moment-là. Donc les nécessités du capitalisme à ce moment-là, de façon tout à fait générale dans le Proche-Orient, c'était l'impulsion des États-nations. Donc la création d'un État-nation, c'est vrai que c'est Reza Shah qui a eu ce rôle. Pour beaucoup d'Iraniens, la prise du pouvoir de Reza Shah en 1921, avec l'arrivée de brigades cosaques et tout ça, sont considérées comme l'œuvre directe des Britanniques. Mais il faut considérer qu'à partir de 1921 jusqu'en 1925, il a pris de plus en plus d'importance. Au départ, il était que quelqu'un qui représentait vraiment la force militaire qui prenait le pouvoir. Mais néanmoins, pendant tout ce temps-là, toute la société iranienne, d'une façon ou d'une autre, même le Parlement, le regardait de façon positive. Donc il pouvait prétendre réellement, en 1925, quand il s'est couronné lui-même, donc il pouvait réellement se prétendre à ce titre de créateur donc d'une nouvelle dynastie en Iran. Ce qui est important aussi, c'est que par exemple, dans les manifestations actuelles, les royalistes surtout aujourd'hui qui sont à l'étranger, ils disent, et c'est vrai que parmi les slogans qu'on entend dans la population iranienne, c'est « Reza Shah Ruhat Shad », ça veut dire « Reza Shah », que ton âme soit glorifiée. Donc c'est réellement un des slogans qu'on entend dans les manifestations, et d'ailleurs les forces royalistes à l'étranger sont très souvent en train de dire que c'est la preuve que l'Iran aujourd'hui veut la royauté, de nouveau, tu vois. Il faut leur demander, mais si c'était le cas, pourquoi ils disent pas Mohammad Reza Shah Ruhat Shad? Pourquoi ils disent Reza Shah Ruhat Shad? C'est-à-dire son père, pourquoi pas Mohammad Reza Shah, le fils, ou son petit-fils qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui prétend aujourd'hui au pouvoir en Iran. Donc, c'est vrai que dans la conscience iranienne, on a Reza Shah comme personnalité qui a imposé l'État-nation, qui a construit les bases de l'État-nation en Iran. C'est le fondateur de l'État moderne. Tout d'abord, il constitue l'État-nation. Constituer l'État-nation, à ce moment-là, c'était réprimer les tribus. Parce que pendant la guerre, les tribus, ils avaient repris encore beaucoup de pouvoir. Et donc, il a réprimé tous les tribus et tous les mouvements contestataires, que ça vienne des tribus ou les mouvements contestataires qu'on a dit au nord du pays, donc les mouvements révolutionnaires. Il y avait, par exemple, parmi ces tribus, des tribus qui, en particulier, étaient en relation avec les Britanniques, par exemple, comme Sheikh Hazan, donc qui représentait un peu, à un moment donné, les intérêts britanniques. Donc, il arrive à faire la répression ou à les calmer, à les rentrer dans le rang. En 1924, la cinquième session du Parlement approuve un large programme de réformes portant sur l'abolition des titres nobiliaires, l'introduction des noms de famille, l'adoption de nouvelles taxes destinées à financer la mise en place d'un chemin de fer transiranien. Donc c'est le fameux chemin de fer de la mer Caspienne jusqu'au golfe Persique. On n'avait jamais eu ce truc-là. Le seul chemin de fer qu'on avait, c'était le chemin de fer qui allait jusqu'à Chopdelazim, qui était construit par les Belges. Au total, à ce moment-là, quelque chose comme 300 kilomètres. Mais pendant toute la période de Reza Shah, on crée ce chemin de fer en imposant le sucre et le thé. Il arrive à se financer avec un peu de l'argent du pétrole. Il arrive à financer donc ce chemin de fer trans-iranien. Il introduit le système métrique, l'adoption du calendrier persan solaire. Il regarde beaucoup du côté des réformes que Mustafa Kemal est en train de mener en Turquie. À un moment donné, il rêve même d'une république, mais tout de suite, il voit que ça va pas coller, qu'il y a beaucoup de contestations par le clergé et propriétaires terriens. Ils sont contre l'idée de la République, donc il abandonne finalement cette idée. Il renforce les forces armées, la gendarmerie, la brigade cosaque, la police. Il les fusionne ensemble pour constituer vraiment une armée. Il y a 67 000 soldats. Il s'intéresse à la réorganisation des finances publiques. Pour pouvoir commencer sa modernisation, il y a donc un chargé de mission qui s'appelle Arthur Milpo, entre 1922 et 27, qui est un spécialiste américain qui est engagé par le gouvernement persan, qui va permettre à Téhéran d'améliorer la collecte des taxes et donc améliorer les finances publiques. Grâce au renforcement de ses capacités militaires, Reza Shah peut mener des opérations, comme on a dit, contre les mouvements rebelles en général et unifier la Perse. En particulier, il va mener une campagne contre le mouvement Djengali qui avait pris beaucoup de pouvoir. Mirza Kuchakran et Djengali, qui était une révolutionnaire liée aux bolcheviques. Il arrive donc à mettre un point final à cette insurrection. Donc cette campagne victorieuse qu'il lance contre les mouvements révolutionnaires et contre les forces tribales renforce son prestige chez les Britanniques, surtout parce qu'on voit en lui quelqu'un qui est anti-bolchevique et qui peut faire donc obstacle par rapport à la puissance bolchevique. En même temps, par rapport aux dirigeants des tribus différents, ce qu'il fait, c'est que quand il n'arrive pas vraiment à utiliser la répression pure et dure, donc il en fait des alliés, il fait par exemple des représentants au Parlement iranien, donc il les achète plus ou moins, ces chefs de tribus. Avant qu'il prenne le pouvoir, il y avait 4 ministères. Il crée 11 ministères. Il y a 90 000 fonctionnaires en 1941. Une nouvelle structure administrative est établie pour gérer le territoire. Les provinces passent de 8 à 15 et sont organisées pour la première fois en départements, municipalités, districts ruraux. Les représentants des différents niveaux sont choisis par le pouvoir central. Cet accroissement de l'appareil étatique est rendu possible grâce à l'amélioration des rentrées financières de l'État, qui proviennent maintenant principalement des royalties sur le pétrole et de l'augmentation des droits de douane et la création de nouveaux impôts sur les biens de consommation.
Et puis les monopoles aussi dont tu as parlé, sur le sucre. Puis finalement, on peut dire que le Reza Shah mène une véritable révolution fiscale anti-féodale, dans le sens où tous les féodaux, les notables, le clergé, les aristocrates qui auparavant ne payaient pas d'impôts fonciers, puisque la base de l'impôt en Iran à cette époque, c'est l'impôt foncier, mais comme toutes les classes dominantes en étaient exemptes, finalement, l'État était en banqueroute quasi continuelle sous les Qajars, et lui, il va réussir, bon, avec évidemment le bonus énorme des rentées pétrolières, mais avoir suffisamment d'argent pour faire fonctionner toute une bureaucratie qui lui permet de contrôler réellement le pays, ce que tous les chats qui l'avaient précédé n'avaient jamais réussi à faire, et aussi donc bureaucratie, et puis d'autre part une armée qui lui permet de se rendre maître par la force du pays. L'autre aspect de cette puissance militaire du Shah, hein, Abrahamian parle même d'une monarchie militaire d'une certaine manière, c'est le fait que la conscription militaire va être un outil central dans la création d'un État-nation. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens étaient principalement liés à des identités locales, régionales, à finalement des sociétés certes connectées, mais qui était avant tout local. Et dans le cadre de la conscription militaire, tout le monde est forcé de parler persan. Et c'est par le biais de la conscription militaire qu'une forme de conscience nationaliste va être créée par Reza Shah. Et donc, d'une certaine manière, effectivement, par la nationalisation de la société iranienne, et aussi par le fait que l'État iranien contrôle l'intégralité du territoire par une logique verticale, alors qu'auparavant, finalement, il était complètement dépendant des notables, et bien là, effectivement, il y a vraiment la naissance d'un État-nation moderne. Et évidemment, lorsqu'on dit ça, on est simplement au niveau de l'analyse. Il ne s'agit pas d'en faire l'apologie, ni d'un point de vue réactionnaire, de dire que c'était mieux avant, etc. Simplement, il faut comprendre cette transformation radicale qui s'opère finalement en 20 ans, même si évidemment les transformations continuent jusqu'à aujourd'hui.
Absolument, parce qu'il ne faut pas oublier donc qu'il entreprend l'industrialisation systématique du pays. Des investissements publics sont réalisés dans le cadre d'une politique de substitution des importations, même si ça ne marche pas très très bien. Il encourage l'initiative privée par des mesures fiscales favorisant l'importation des marchandises modernes et la création des nouvelles usines. Mais bon, il y a le manque de capitaux qui est toujours un problème essentiel, et de confiance dans la stabilité à long terme du pays qui toujours empêche et empêchera le développement rapide de secteurs industriels. L'État est obligé de mettre les mains à la pâte dans les efforts d'industrialisation, c'est-à-dire un investissement privé. Il n'y avait pas d'investissement privé qui soit fait dans le domaine de l'industrie, et c'était vraiment l'État qui s'en occupait. Donc la priorité est donnée aux industries légères, textiles, sucreries, agroalimentaires, distilleries, conserveries, cimenteries, production chimique, électricité, fabrication de savon, boissons, de verre papier, d'allumettes, de cigarettes, le travail du cuir, du thé. Au cours des années 1930, on a plus de 260 usines qui sont établies. Donc, à la fin de la décennie, l'État s'intéresse aussi à l'industrie lourde avec un projet de fonderie et d'aciérie mené en coopération avec l'Allemagne. Ce qui est important, c'est que justement, à cause de cette neutralité de l'Allemagne dans la compétition qu'il y avait historiquement entre les Britanniques et les Russes, ils ont beaucoup plus de facilité avec l'Allemagne de faire confiance avec l'Allemagne. Et donc, beaucoup de projets industriels sont entrepris avec l'Allemagne. De sorte que en 1941, apparemment, 60% des échanges commerciaux de l'Iran, c'est avec l'Allemagne. Donc ça prend une place très très importante. Pour augmenter les recettes pétrolières, il commence à mettre en doute, enfin en question, l'accord de l'Anglo-Perse Company qui existait avant. Donc il disait que le revenu pétrolier était trop faible. Et donc le gouvernement veut renégocier en fait la concession qui était faite à Darcy à l'époque. Donc un nouvel accord est finalisé et ratifié par le Parlement en mai 1933. L'accord prévoit la diminution drastique de son extension géographique, de l'extension géographique de la concession Darcy. Donc un accroissement des royalties parce qu'ils mettent en cause la façon que les royalties étaient calculées, qui étaient calculées sur les bénéfices totaux du système. Ils mettent en question ça. Donc, ils rétablissent ce truc-là sur le volume de pétrole, donc qui leur permet d'avoir une augmentation des revenus pétroliers. Dans le domaine minier aussi, il faut citer le charbon, le manganèse, l'oxyde de fer. Il établit donc, comme on vient de dire, des monopoles pour protéger l'industrialisation et contrôler le taux de change avec, pour résultat, le renforcement des liens économiques avec des pays à faible devise comme l'URSS et l'Allemagne. Parce que ce qui est très important, c'est en fait, c'est ça la question principale, c'est la façon que l'Iran doit être intégré dans ce mode de développement capitaliste international à cette période-là. Donc, vu le degré de développement plus bas de la production iranienne, donc il s'approche plutôt de cette ère de développement à devise plus faible qui est l'URSS et l'Allemagne.
Et puis, de manière générale, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, le développement du capitalisme en Iran à cette période, il obéit finalement à la logique de la modernisation de rattrapage industriel autocentré, voilà, tel qu'on peut l'observer dans d'autres pays, la France, le Japon, l'Allemagne, à partir du 19e siècle, c'est-à-dire un capitalisme à dominante étatique. Il y a une tentative de développement autocentré. Parce que finalement, toutes les industries dont tu as parlé, c'est principalement des industries qui ont pour principal débouché le marché intérieur. Et aussi, il y a l'idée du protectionnisme, c'est-à-dire qu'on va essayer que ces industries puissent se développer petit à petit, avec pour principal débouché le marché intérieur, à l'abri de la compétition internationale. Donc on est vraiment dans le modèle de développement autocentré classique du capitalisme pour des pays qui n'ont pas le même niveau de productivité et de développement des forces technologiques de production que, par exemple, l'Angleterre ou les États-Unis. Et ce qui fait que, finalement, Reza Shah peut être encore finalement valorisé aujourd'hui en Iran, c'est que même si, dans une lecture très nationaliste, il a pu être jugé très durement sur le fait qu'il était l'homme des Britanniques, que finalement, ce serait un petit peu un agent de l'impérialisme étranger, d'un autre côté, de par les nécessités objectives du développement du capitalisme, eh bien, il était obligé finalement de le développer sur un mode plutôt nationaliste, plutôt protectionniste, même si, bon, évidemment, ça n'impliquait pas complètement l'expulsion du capitalisme britannique, dont le Shah restait dépendant pour la production pétrolière, qui était une énorme source de revenus pour la construction de son État et même de son industrialisation, quoi. Évidemment, toute une ambiguïté par rapport à une ambivalence.
Oui, et ambiguïté, ambivalence, c'est vraiment... C'est-à-dire, pour pouvoir qualifier ça de auto-centré, il faut pouvoir imaginer une autre façon de développement, tu vois. C'est ça qui complique la chose. Et en regard, si tu veux, avec la question de l'intégration du capitalisme mondial à ce moment-là, les courroies, si tu veux, de transmission du capitalisme mondial, ce capitalisme, dans ce pays qui venait à peine de créer son État-nation, on peut difficilement imaginer une autre façon de développement, si tu veux. Le développement que pouvait avoir la société iranienne à ce moment-là, c'était ce capitalisme basé sur la petite industrie, si tu veux, en même temps très lié, que ça soit au niveau de la production du pétrole et de la vente du pétrole et tout ça, mais en même temps, les équipements, c'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient venir. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, les Britanniques et puis petit à petit les Américains commencent à s'inquiéter des rapports du Reza Shah avec l'Allemagne, parce que c'est surtout les équipements qui sont venus de l'Allemagne en réalité. C'est très ambigu et ça demande peut-être une étude plus approfondie pour comprendre vraiment à quel point on peut le qualifier d'autocentré ce développement, dans le sens où, comme je dis, je vois pas autrement un autre type de développement à ce moment-là. Je dirais la divergence entre un développement qui a tendance à une intégration directe par rapport au fonctionnement du capitalisme international, c'est une question qui se pose plus tard. Je veux dire, c'est une question qui se pose vraiment dans les années 50, dans les années 60, où justement, on peut éventuellement imaginer deux types de développements différents, c'est-à-dire le développement qu'aurait voulu poursuivre quelqu'un comme Mossadegh ou les gens qui étaient avec Mossadegh, surtout Fatemi, par exemple, qui était la personnalité, à mon sens, le plus nationaliste dans l'équipe de Mossadegh, ou un autre type de développement qui soit en relation directe avec les étrangers, quoi.
Oui, finalement, on peut dire que d'une certaine manière, le développement du capitalisme en Iran sous Reza Shah, c'est une sorte de mi-chemin entre le développement purement colonial du capitalisme, comme on l'observe dans énormément de pays, avec simplement certaines zones qui sont rattachées au capital international et qui sont sous domination d'entreprises étrangères, donc c'est le cas par exemple du pétrole en Iran. Il y a une part de ça, mais pas complètement, parce que toute économie n'obéit pas non plus à cette logique. Et d'autre part, finalement, l'autre modèle extrême, c'est le développement autocentré du capitalisme sous domination totale de l'État, qui est le capitalisme d'État en URSS. Mais en même temps, évidemment, Reza Shah n'adopte pas non plus, ne pousse pas l'étatisation de l'économie jusqu'à cette ampleur. Donc finalement, c'est une espèce de mixte entre un développement exogène du capitalisme par les Britanniques, centré donc sur le pétrole, et un développement endogène à dominante étatique, mais pas intégralement étatisé. Donc, ce qui fait que, par exemple, le bazar va être plutôt attaqué et menacé beaucoup plus tard, en réalité, plutôt à partir de la deuxième moitié des années 70 par Mohamed Reza Shah, et c'est une des origines de la révolution de 1979 dont on va parler.
Souligner le fait que pendant toute l'époque de Reza Shah, la question agraire reste largement ignorée. Il ne bouge, il ne fait pas révolutionner en réalité cette structure agraire qui persiste et qui sera plus tard, d'abord c'est Mossadegh qui le propose, donc bien avant les réformes agraires du Shah, Mossadegh le propose et il met en cause la rente foncière et tout ça pour justement permettre à cette économie nationale capitaliste de se développer, parce que on peut difficilement imaginer vraiment la prédominance du capitalisme en Iran sans réforme agraire, parce que tous les rapports de production sont encore enracinés dans une société agraire féodale où la circulation monétaire n'existe pas tellement, les modèles de consommation ne correspondent pas, donc on a une société qui reste quand même grande majoritairement une société agricole.
Oui, effectivement, c'est là où on voit comment est-ce que le développement du capitalisme dans des pays comme l'Iran est très particulier, parce que c'est vraiment un développement inégal et combiné à l'intérieur aussi. C'est-à-dire que on a au sud, autour des champs pétroliers, ce développement exogène d'un capitalisme. On a autour des centres urbains et industriels un développement endogène du capitalisme. Et puis on a tout le reste du pays qui n'est que très marginalement intégré finalement au capitalisme. Par contre, il est très intégré à l'État. C'est-à-dire que là, pour le coup, la seule vraie révolution de Reza Shah dans ce domaine, c'est que auparavant, l'État iranien, qui était relativement inexistant, mais disons la monarchie iranienne, arrivait très peu à ponctionner les campagnes, alors que là, elle y arrive très largement. Mais effectivement, si la ponction étatique augmente, donc finalement, on pourrait dire la distribution de la rente féodale, voilà, entre les classes dominantes et la monarchie arrive à s'approprier une partie de plus en plus importante de cette rente féodale, mais ça reste une rente féodale basée sur des rapports féodaux, de métayage, de fermage, et donc il n'y a pas encore de transformation des campagnes, ça va intervenir que plus tard.
Absolument. Et n'oublions pas qu'il devient le plus grand propriétaire terrien de l'Iran. C'est-à-dire tout ça, toute cette transformation, c'est qu'au même moment, donc il accapare, parce que c'est quelqu'un qui n'avait aucune richesse personnelle, Donc c'est quelqu'un qui accapare de grandes quantités de terrain dans le nord de l'Iran, du côté de Mazandaran, de Gilan, tout ce qui était, parce que c'était le Shah, il pouvait s'attribuer tout ce qu'il voulait. Donc ça devient en même temps le plus grand propriétaire terrien du pays. Donc il n'a aucun intérêt, réellement aucun intérêt, de mettre en question la production agraire. Donc c'est sa richesse, quoi. Donc c'est cette richesse terrienne, avec ce despotisme, cette dictature féroce qui élimine toutes sortes de créations de sociétés civiles. Justement, par exemple, si c'était un capitalisme autocentré d'une façon ou d'une autre, il fallait à côté de ça pouvoir éventuellement voir l'émergence d'une société civile avec tout ce que ça comporte de démocratie, de vie démocratique. Ce n'est absolument pas le cas. C'était vraiment la dictature féroce. Il a réprimé. Et il a interdit le parti Toudé, qui à l'époque c'était le parti communiste en relation avec les soviétiques. Il a été interdit. Aucun mouvement de protestation ne pouvait exister. Donc c'est vrai qu'il a créé un État autocratique, mais il a créé l'État-nation en Iran.
Oui, voilà, c'est évidemment une forme d'ambivalence. Il s'agit pas ici tellement de porter un jugement sur les achats, puisque on se doute bien de ce qu'on peut en penser d'un point de vue. Voilà, anti-autoritaire, marxien, mais c'est important, voilà, de comprendre pour l'analyse qu'est-ce que c'est que cette dictature modernisatrice qui a une forme particulière et qui va se retrouver évidemment sous l'héritier, hein, sous Mohammad Reza Shah, mais qui va prendre fin en 1941. Reza Shah va être renversé par les Britanniques dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. En raison d'un coup de force des nationalistes pro-allemands, les Britanniques vont réussir à mettre fin à ce coup d'État pro-allemand et vont exiger le départ du Shah, Reza Shah, et vont mettre à sa place donc le dernier Shah, hein, de l'histoire de l'Iran, Mohammad Reza Shah, dont on va examiner donc le règne à partir de 1941 dans la troisième partie de cette émission. Spectre.